Jules Verne, César Cascabel, première partie, chapitre 8. Au village des coquins. Huit jours après, le 26 mai, l'attelage se trouvait aux sources du Fraser. Si la pluie n'avait cessé de tomber nuit et jour, ce mauvais temps allait prochainement prendre fin à s'en rapporter aux affirmations du guide. Après avoir contourné les sources du fleuve en suivant un territoire assez montueux, la belle roulotte prit franchement direction vers l'ouest. Encore quelques journées de marche et M. Cascabel serait à la frontière de l'Alaska. Pendant la dernière semaine, ni bourgade, ni hameau ne s'étaient rencontrés sur l'itinéraire suivi par Renaud. Du reste, on n'avait eu qu'à se louer des services de cet Indien, car il connaissait parfaitement le pays. Ce jour-là, le guide prévint M. Cascabel que, s'il le désirait, il pourrait faire halte dans un village situé à peu de distance où un repos de 24 heures ne serait pas sans profit pour ses chevaux quelque peu surmenés. « Quel est ce village ?» demanda M. Cascabel, toujours en défiance quand il s'agissait de la population colombienne. « Le village des coquins, » répondit le guide. « Le village des coquins ? » s'écria M. Cascabel. « Oui, » dit Jean, « c'est bien le nom qui est porté sur la carte, mais ce doit être un nom de tribu indienne, tel que les Coquins. » « Bon, bon, pas tant d'explications, » répliqua M. Cascabel. « Et il est le bien nommé, s'il est habité par des Anglais, ne fût-il qu'une demi-douzaine. » Dans la soirée, la belle roulotte fit halte à l'entrée de ce village. Il ne lui fallait plus que 3 jours tout au plus pour atteindre la frontière géographique qui sépare l'Alaska de la Colombie. Dès lors, M. Cascabel ne tarderait pas à recouvrer sa bonne humeur habituelle, si compromise sur le territoire de Sa Majesté britannique. Le village des coquins était occupé par une population indienne, mais il y avait alors un certain nombre d'Anglais, chasseurs de profession ou simples amateurs, qui n'y séjournaient que pendant la saison des chasses. Parmi les officiers de la garnison de Victoria, qui s'y trouvaient, était un certain baronnet, Sir Edward Turner, homme hautain, brutal, insolent, très entiché de sa nationalité, un de ces gentlemen qui se croient tout permis par ceux-là seuls qu'ils sont Anglais. Il va sans dire qu'il détestait les Français, autant pour le moins que M. Cascabel détestait ses compatriotes. On voit si tous deux étaient faits pour s'entendre. Or, le soir même de la halte, tandis que Jean, Cendre et Clou étaient allés aux provisions, il arriva que les chiens du baronnet se rencontrèrent dans le voisinage de la belle roulotte avec Wagram et Marengo, lesquels partageaient évidemment les antipathies nationales de leur maître. De là, désaccord entre l'épagnol et le caniche d'une part et les pointères de l'autre, puis vacarme, coups de dents, bataille et finalement intervention des propriétaires. Sir Edward Turner, ayant entendu tout ce bruit, sortit de la maison qu'il occupait à l'entrée du village et vint menacer de son fouet les deux chiens de M. Cascabel. Aussitôt celui-ci de s'élancer au-devant du baronnet et de prendre fait et cause pour ses bêtes. Sir Edward Turner, il s'exprimait en un français très correct, reconnut aussitôt à qui il avait affaire, et sans chercher à mettre la moindre réserve à son insolence, il ne se gêna pas pour traiter britanniquement le saltimbanque en particulier et ses compatriotes en général. On imagine aisément ce que dut éprouver M. Cascabel devant de tels propos. Toutefois, comme il ne voulait pas se créer une mauvaise affaire, surtout en pays anglais, et par suite des embarras qui auraient pu retarder son voyage, il se contint et répondit d'un ton qui n'avait rien d'inconvenant. « Ce sont vos chiens, monsieur, qui ont commencé par attaquer les miens. »«
Vos chiens ! » riposta le baronnet. « Des chiens de batteleur ! Ils ne sont bons qu'à être reçus à coups de croc ou à coups de fouet. »
« Je vous ferai observer, » reprit M. Cascabel en s'animant malgré sa résolution d'être calme, que ce n'est pas digne d'un gentleman, ce que vous dites là. C'est pourtant la seule réponse que mérite un homme de votre espèce. Monsieur, je suis poli, et vous n'êtes qu'un polisson.
Ah, prenez garde, vous osez tenir tête au baronnet Sir Edward Turner !» La colère saisit M. Cascabel, et la figure pâle, les yeux enflammés, les poings menaçants, il marchait sur le baronnet, lorsque Napoléon accourut. « Père, viens donc, » dit-elle, « maman te demande. » Cornélia envoyait sa fille afin de faire rentrer M. Cascabel à la belle roulotte. « Tout à l'heure, » répondit celui-ci. « Dis à ta mère d'attendre que j'en ai fini avec ce gentleman, Napoléon. » À ce nom, le baronnet laissa échapper un éclat de rire des plus méprisants. « Napoléon, » répéta-t-il, « Napoléon, cette gamine, le nom de ce monstre qui... » Cette fois, c'était plus que M. Cascabel n'en pouvait supporter. Il s'avança, les bras croisés, jusqu'à toucher le baronnet. « Vous m'insultez ? » dit-il. « Je vous insulte, vous ? Moi ? Et vous insultez le grand homme qui n'aurait fait qu'une bouchée de votre île s'il y avait débarqué ? Vraiment ? Qu'il aurait avalé comme une huître ?»« Misérable pitre ! » s'écria le baronnet. Et il s'était un peu reculé dans l'attitude du boxeur, prêt à la défensive. « Oui, vous m'insultez, monsieur du baronnet, et vous m'en rendrez raison. Rendre raison à un saltimbanque. En l'insultant, vous l'avez fait votre égal, et nous nous battrons à l'épée, au pistolet, au sabre, à ce que vous voudrez, même à coup de poing. Pourquoi pas à coup de vessie ? » riposta le baronnet, « comme vos paillasses sur vos tréteaux. Défendez-vous. Est-ce qu'on se bat avec un coureur de foire ?»« Oui, » s'écria M. Cascabel, arrivé au dernier degré de la fureur. « Oui, on se bat, ou l'on se fait battre. » Et, sans songer que son adversaire aurait sans doute l'avantage, dans une de ces boxes où excellent les gentlemen, il allait se précipiter sur lui lorsque Cornélia intervint de sa personne. Au même moment, accoururent quelques officiers du régiment de Sir Edward Turner, ses compagnons de chasse, et, se joignant au baronnet, bien décidés à ne point le laisser se commettre avec une pareille espèce, ils accablèrent d'invectives la famille Cascabel. Ces invectives, d'ailleurs, n'eurent point le don d'émouvoir l'imposante Cornélia, du moins en apparence. Elle se contenta de jeter sur Sir Edward Turner un regard qui n'était pas rassurant pour l'insulteur de son mari. Jean, Clou et Cendre venaient d'arriver aussi, et la dispute allait dégénérer en bataille lorsque Madame Cascabel s'écria « Viens, César, et vous aussi, les enfants, venez, allons, tous à la roulotte, et plus vite que ça !» Et ce fut dit d'un ton si impérieux que nul ne se fut permis de désobéir à cette injonction. Quelle soirée passa M. Cascabel ! Il ne décolérait pas. Lui, touché dans son honneur, touché dans la personne de son héros, insulté par un English. Il voulait aller le trouver, il voulait se battre contre lui, contre tous ses compagnons, contre tous les coquins de ce village de coquins. Et ses enfants ne demandaient qu'à l'accompagner. Jusqu'à Clou, qui ne parlait rien moins que de manger le nez d'un Anglais, à moins que ce ne fût l'oreille. Vraiment, Cornélia eut bien de la peine à calmer ses enragés. Au fond, elle reconnaissait bien que tous les torts étaient du côté de Sir Edward Turner. Elle ne pouvait nier que son mari, d'abord, toute la famille ensuite, eussent été traités comme on ne se traiterait pas, même entre forains de la pire espèce. Cependant, ne voulant pas laisser la situation s'empirer, elle ne céda point, elle tint tête à l'orage, et, à la dernière volonté exprimée par son mari d'aller flanquer au baronnet une de ses piles qui... elle lui répondit « Je te le défends, César !» Et M. Cascabel, rongeant son frein, dut se soumettre aux ordres de sa femme. Combien Cornélia avait hâte d'être au lendemain, d'avoir quitté ce maudit village. Elle ne serait tranquille que lorsque toute la famille s'en trouverait à quelques milles dans le nord. Et, pour être bien certaine que personne ne sortirait pendant la nuit, non seulement elle ferma soigneusement la porte de la belle roulotte, mais elle resta à veiller au dehors.
Le lendemain, 27 mai, dès 3 heures du matin, Cornelia éveilla tout le personnel. Pour plus de sécurité, elle voulait partir avant l'aube, alors que tous, indiens ou anglais, seraient encore endormis. C'était le meilleur moyen d'empêcher la bataille de reprendre de plus belle. Et même à ce moment-là, détail à noter, il semblait que cette digne femme était singulièrement pressée de lever le campement. Très agité, le regard inquiet, l'œil enflammé, regardant à droite, à gauche, elle harcelait, gourmandait, morigénait son mari, ses fils et Clou, qui ne se hâtait pas assez au gré de son impatience. « Dans combien de jours aurons-nous passé la frontière ? » demanda-t-elle au guide. « Dans 3 jours, répondit Renaud, si nous ne sommes pas retardés en route. »« En route, répliqua Cornelia, et surtout qu'on ne nous voit pas partir. » Il ne faudrait pourtant pas s'imaginer que M. Cascabel eût digéré les insultes de la veille. Quitter ce village sans avoir payé à ce baronnet ce qu'il lui devait, c'était dur pour un Normand aussi français que patriote. « Voilà ce que c'est, répétait-il, que de mettre le pied dans un pays de John Bull. » Mais s'il eut la velléité d'aller faire un tour du côté du village avec l'espoir d'y rencontrer Sir Edward Turner, s'il jeta plus d'un regard sur les volets fermés de la maison qu'habitait ce gentleman, il n'osa pas s'éloigner de la terrible Cornelia. Elle ne le quittait pas d'un instant. « Où vas-tu, César ? Reste ici, César ! Je te défends de bouger, César !» Monsieur Cascabel n'entendait que cela. Jamais il ne s'était trouvé à ce point sous la domination de l'excellente et impérieuse compagne de sa vie. Par bonheur, grâce à des injonctions réitérées, les préparatifs furent rapidement achevés et l'attelage prit place au brancard. À 4 heures du matin, chiens, singes et perroquets, Marie, fils et fille, tous étaient installés dans les compartiments de la belle roulotte, sur le devant de laquelle Cornelia s'était assise. Puis, dès que Clou et le guide se furent mis à la tête des chevaux, le signal du départ fut donné. Un quart d'heure après, le village des coquins avait disparu derrière le rideau des grands arbres qui lui faisaient ceinture. C'est à peine si le jour commençait à poindre. Tout était silencieux. Pas un être vivant à la surface de la longue plaine qui s'allongeait dans la direction du nord. Et enfin, lorsqu'il fut bien constant que le départ s'était effectué sans avoir attiré l'attention de personne dans le village, lorsque Cornelia eut cette complète assurance que ni les Indiens ni les Anglais ne songeaient à lui barrer la route, elle poussa un long soupir de satisfaction, dont son mari se sentit peut-être quelque peu blessé. « Tu avais donc bien peur de ces gens-là, Cornelia ? » lui demanda-t-il. « Très peur, » se contenta-t-elle de répondre. Les 3 jours qui suivirent s'écoulèrent sans amener aucun incident, et, ainsi que le guide l'avait annoncé, on arriva enfin sur l'extrême limite de la Colombie. La belle roulotte, ayant heureusement franchi la frontière alaskienne, put alors s'arrêter. Une fois là, il ne restait plus qu'à régler avec l'Indien qui s'était montré aussi zélé que fidèle et à le remercier de ses services. Puis Renaud prit congé de la famille après avoir indiqué quelle direction elle devrait suivre pour se rendre par le plus court à Sitka, la capitale des possessions russes. Maintenant qu'il n'était plus sur un territoire anglais, il semblait que M. Cascabel aurait dû respirer plus à l'aise. Mais non. Au bout de 3 jours, il n'était pas encore remis de la scène qui s'était passée au village des coquins. Il avait toujours cela sur le cœur. Aussi ne put-il s'empêcher de dire à Cornelia « Tu aurais dû me laisser retourner en arrière pour régler son compte à ce mylord. » « C'était fait, César, » répondit simplement Madame Cascabel. « Oui, fait et bien fait. » Pendant la nuit, tandis que tout son monde était endormi au campement, Cornelia avait été rôdée autour de la maison du baronnet, et, l'ayant aperçue au moment où il sortait pour se rendre à l'affût, elle l'avait suivi pendant quelques centaines de pas, et, dès qu'il fut engagé dans le bois, le premier prix du concours de Chicago lui avait administré une de ces rossées qui vous couche proprement un homme sur le sol.
Sir Edward Turner, tout meurtri, n'avait été relevé que le lendemain, et il devait longtemps porter les marques de sa rencontre avec cette aimable femme. « Oh, Cornelia, Cornelia !» s'écria son mari en la serrant dans ses bras. « Tu as vengé mon honneur. Tu étais bien digne d'être une cascabelle !»